La vie, c'est une boîte de chocolat Forest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
La maison de l'écriture de Bédarieux vous souhaite une belle année, en dépit des nuages que des gouvernants irresponsables accumulent sur nos têtes. Et pour qu'elle soit belle et riche, nous vous proposons de renouer avec les gestes qui ont assuré la perpétuation de l'espèce humaine, donner, transmettre, vêtir, tenir chaud, écrire. C'est à Lézignan-Corbière, où vit et travaille Marielle, trésorière et génie protecteur de la maison de l'écriture, que nous avons rencontré Laure, son amie et collègue. Femme du fil, issue de générations de femmes du fil, Laure brode entre toile et papier.
J'ai commencé par écrire parce que j'étais dans cette dynamique de cette approche un peu intellectuelle des mots. Et quand je suis devenue maman, il a fallu que je me rapproche de ces femmes de ma famille pour peut-être trouver un peu ma place de mère dans un contexte familial où c'était pas des intellectuels, mais c'était des femmes qui faisaient, et elles faisaient avec le fil. Et quand je suis devenue maman, j'ai eu ce besoin de retrouver peut-être mes racines et de faire différemment, de quitter l'approche un peu intellectuelle d'écriture et de me mettre à faire avec mes mains. Puis je suis retournée vers l'écriture, vers un travail un peu plus lié à la pensée. Et puis il y a 5 ans, quand j'ai perdu ma mère, je me suis replongée là-dedans parce que j'avais plus de mots en fait. Et en fait, le travail autour du fil m'a permis de trouver des mots quand j'en avais plus. Et donc ça dure toujours en fait. Et donc là, je réapprivoise peut-être un peu les mots, mais c'est le fil qui m'a permis de le faire. Ce que j'essaye de refaire depuis quelques années, c'est lié à l'histoire avec ma mère en fait, qui est tombée malade. Et pendant sa maladie, on s'est retrouvés autour du fil parce qu'on n'avait tellement plus de mots à mettre sur ce qui nous arrivait, enfin ce qui lui arrivait et moi qui l'accompagnais, que le fil, ça a été l'activité qui nous a reliés quand les mots étaient impossibles à poser. Et j'ai arrêté le travail du fil quand elle est décédée, parce que j'avais ni mots, ni temps, ni énergie à mettre dans quoi que ce soit. Et je crois que la broderie, ça m'apporte plus que la couture qui est plus dans un acte de systématisation en fait. Mais la broderie, d'aller réfléchir à quel lien je tisse, qu'est-ce que j'écris avec ce fil, c'est ce qui me permet de réécrire. J'ai toujours un cahier à côté, donc c'est un va-et-vient entre l'écriture sur le papier et puis l'acte de broder, qui parfois est totalement mécanique en tout cas. Enfin, ça exprime quelque chose que je n'arrive pas à mettre en mots, et il y a un moment où je peux réécrire. Et donc c'est toujours des va-et-vient entre cette écriture manuscrite ou numérique et l'écriture avec le fil.
Ta mère était couturière ?
Oui, mais couturière de maison en fait. Oui. Mais ma grand-mère était brodeuse, était crocheteuse, ma tante était... Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais appris sans apprentissage réel, sans extraction, sans qu'il y ait une formalisation d'apprentissage, mais juste par le regard. Et je me suis rendu compte que j'avais tout ça, sans jamais l'avoir formellement appris. Et ça a été vraiment le lien. Et c'est toujours le lien avec ma tante qui est plus âgée. Voilà, c'est le lien familial entre femmes.
C'était des brodeuses professionnelles ?
Non. Alors, ma tante, oui. Ma grand-mère, non. Mais mon arrière-grand-mère était tisserande. Enfin, vraiment, je viens de cette famille de femmes du fil, en fait. Mais qui n'ont jamais utilisé les mots pour exprimer ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles vivaient. Mais qui sont toujours passées par cet acte qui s'est transmis de femme en femme, en fait. Les moments du travail autour du fil, ça a toujours été des moments où avec ma tante ou ma grand-mère, où elles racontaient leurs histoires de jeunesse, de ce qu'elles avaient appris dans leur vie quotidienne, ou dans, pour ma tante, dans le travail de couturière professionnelle. Et c'est toujours des moments privilégiés entre femmes, en fait. Jamais les hommes étaient présents. Ou, voilà, il y a toujours ce regard un peu condescendant à l'égard des femmes qui font ce travail de fil. Donc c'était vraiment entre femmes de plusieurs générations. Ça fait naître les échanges qu'on ne se dit jamais. On peut se le dire à ces moments-là. On est vraiment dans l'intimité de la femme et de ce qu'elle va transmettre aux autres générations. Finalement, elles le font très peu pour elles, elles le font toujours pour les autres. Donc on est sur un don de soi aussi. Donc c'était ça que j'avais envie d'explorer, en fait. Qu'est-ce qu'on donne à travers ça, et finalement, quelles émotions on y met. Il y a du dit, il y a énormément de non-dit, en fait, dans l'attention qu'on y porte, dans qu'est-ce qu'on y destine, dans le moment qu'on a partagé, qui, à mon sens, reste dans l'ouvrage qui est fabriqué. On parle aux autres et on le fait pour les autres, comme le texte qu'on va donner à lire aux autres. Pour ma part, c'était un enracinement dans mon histoire, déjà. Et puis c'est, il y a un temps de contemplation aussi. Qu'est-ce qu'on a envie d'y dire? Qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre? Donc l'intimité, pour moi, elle est là, en fait. Elle est dans ce temps que je m'accorde, parce que ça prend du temps. Et ça permet d'avoir peut-être le temps aussi de réfléchir aux mots qu'on va pouvoir y mettre. Ou qu'on n'a plus les moyens de donner. C'est une forme de thérapie, peut-être. De prendre ce temps pour trouver les mots à poser sur ce qu'on vit, ce qu'on a envie d'échanger, ce qu'on a envie de donner, de dire. C'est des pièces d'un puzzle qui, à un moment, prendront sens. Quand, je ne sais pas, mais c'est plutôt dans cette démarche-là. Le fil, il permet de pas, d'avoir... Il y a un point de départ. Mmh. Le nœud que tu vas faire sur la broderie, ou c'est la racine, en fait, qui va partir du sol. Et moi, je le conçois comme ça, en fait. Il y a un point de départ qu'on va cheminer. Donc, on peut cheminer de maintenant vers l'arrière pour essayer de voir ensuite où est-ce que ça va nous mener.
Chemin faisant dans la parlotte, la douce voix de l'or se pare de lueurs d'incendie.
Mais tu dis, ça fait 4 ans quand même.
4 ans. Ouais, ça fait 4 ans que je le refais, que je me suis que j'ai accepté que finalement que ce travail qui est déconsidéré, comme tu disais tout à l'heure, c'est le travail caché, le travail des femmes. Et que c'est un peu une démarche aussi de revendication, que ce travail des femmes qui est toujours dénigré, qui est toujours mis en cachette, ou on en a souvent parlé avec Marielle de... Moi, j'écume les vides-greniers, et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toujours des travaux de femmes. Les travaux des hommes, on ne les trouve jamais. Mmh. On trouve toujours ces travaux qui vont être rejetés, on ne va pas les garder. En revanche, on va regarder ce qui a été fait par les hommes, parce qu'on y met une valeur intrinsèque, parce que c'est un travail d'homme. Et ce travail des femmes... Il est peut-être de moins en moins, mais il est souvent relégué à... On ne garde pas, on fond de tiroir, on le jette, c'est la grand-mère qui l'a fait, ça n'a pas d'importance. Et je crois que c'est mettre sous couvert l'intimité de ces femmes et ce qui s'est passé dans la vie de ces femmes qui ont produit, et qui ont produit souvent pour les autres, en fait. Ce que l'homme va produire pour lui-même, pour se mettre en avant. Et ces travaux féminins sont rarement mis en valeur. Ou alors, ça va être ceux des artistes qui sont... Quand ils travaillent le fil, c'est souvent des artistes masculins dans l'histoire des arts. Oui. Et qu'il y a quand même beaucoup de femmes, alors souvent des religieuses. Donc là, on va y trouver une valeur parce que ce travail du fil, il est aussi en quête des spiritualités. Mais tout le travail des « bonnes femmes », entre guillemets, qui était fait à la maison... Aucune valeur. Mmh. Alors, il y a un courant artistique, il y a beaucoup de femmes maintenant qui se remettent aux travaux d'aiguille ou au travail du fil dans l'art contemporain. Il y a de plus en plus d'artistes qui retravaillent ça. Donc, ça acquiert une valeur. Mais au prix de nombreux siècles où ça a été mis sous couvert. Ouais. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi. Faire sortir ce travail qui est toujours dénigré, lui donner une autre valeur. Si il y a une quête, c'est celle-ci, c'est comment sortir ce travail autour du fil de l'espace clos, de l'espace féminin, de la sphère domestique, et lui redonner et participer à redonner des lettres de noblesse, ou le donner à voir, comme on peut pour l'écriture le donner à entendre ou de le donner à lire dans un livre. Ce travail-là, le donner à voir.
Parce que dans le particulier, l'universel est contenu, chaque histoire singulière est un écho de toutes les histoires.
Moi, je viens de Normandie, d'un coin où c'était l'histoire de cette petite région tournée autour du lin, du fil. En même temps, c'est l'export vers les Indes, c'est l'importation de toiles des Indes. Enfin, c'est une histoire qui est plus globale que ça. Ici, ça a été la même chose. À Mazamé, il y a tout ce travail autour du fil. C'est une histoire qui est universelle, en fait. Et puis, c'est l'histoire des femmes, en fait. Dans toutes les cultures du monde, les femmes, elles travaillent le fil. Dans n'importe quel pays, elles travaillent tout le fil, en fait. Quelle que soit la forme, ça va être la broderie, ça va être... Dans tous les pays où je suis allée, il y a toujours eu des femmes qui ont travaillé le fil.
Créer, c'est transmettre. Et la question de la transmission est moins simple qu'il n'y paraît.
J'ai deux filles. Anaëlle a 16 ans, donc elle a toujours baigné avec moi dans le tissu, le fil. Chez sa grand-mère, c'était pareil, elle faisait toujours des tricots. Et pendant le confinement, elle s'est mise à broder, par exemple. Parce qu'elle avait le temps, tu vois. C'est très lié au temps aussi que tu t'accordes ou que tu t'accordes, je crois. Et c'est quelque chose qui lui plaît. Après, c'est une ado, elle a 16 ans. Mais la petite fait du point de croix. Voilà. Elle fait aussi comme moi. On est dans cette transmission. Alors moi, je lui apprends l'essentiel. Et après, à elle de se débrouiller. Mmh. Et je pense que c'est... Je fais avec elle sur le fil comme moi, on m'a transmis ça. C'est-à-dire que je lui donnerai pas un cours, je lui apprendrai pas. Elle me regarde et puis quand elle veut, elle s'y met.
Oui, c'est des transmissions sans cours.
Je crois qu'il y a un anthropologue qui a parlé de ça, c'est Leroy Gourand qui explique, qui met en confrontation deux modes d'apprentissage. Quand on a toujours appris, on nous a appris. Et très explicitement. Et puis, on a eu cette approche un peu analytique, toujours des choses. Et il y a cet autre mode d'apprentissage où tu viens avec moi, tu me regardes et après tu fais. Et je trouvais que c'était intéressant. Et en fait, moi, je me suis intéressée à ça quand j'ai enseigné en Guyane française,
oui.
Où on avait des enfants en face de nous qui savaient faire plein de choses, mais qui savaient les faire en regardant les parents, les grands frères, à faire. Et nous, on était là en tant qu'institution scolaire à toujours être dans l'approche analytique. Comment tu vas faire pour ? Et en fait, on s'est retrouvés confrontés à deux modes d'apprentissage qui étaient vraiment en opposition. Et il fallait qu'on trouve le lien, en fait. Comment on pouvait passer de notre apprentissage où il fallait toujours être explicite dans l'analyse de ce qu'on faisait, pourquoi on va faire ça ? À cet apprentissage qui était très dans la reproduction, et comment on fait pour créer un lien et un dialogue en fait entre les deux. Et je crois que à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir à comment moi j'avais appris les choses, où je suis nulle. Voilà, j'ai fait des études à l'université, tu vois, où finalement j'étais déconnectée du mode d'apprentissage familial. Et à un moment, j'ai eu besoin de me reconnecter à ça. En arrêtant une forme de dénigrement, en disant oui, mais c'est quand même pas très intellectuel, ce qu'on m'a, tu vois ce que je veux dire, et de retrouver la valeur dans cette forme d'apprentissage. Quand t'es gamin, tu te rends pas compte ce que t'as appris.
Voilà. Ouais.
Mais tu te rends compte que tu l'as incorporé, en fait. Et tu sais déjà faire le geste qui va te permettre de. Quand je me suis remise à la mise à la couture, je me suis rendu compte qu'en fait tous les gestes je les connaissais. Je savais enfiler une machine, je savais le faire sans jamais m'être posée à côté de quelqu'un qui dire je vais te donner un cours de, tu vas apprendre à. En fait, jamais ça s'est produit comme ça, mais je savais le faire. Comme l'enfant qui apprend à parler, en fait.
De cette transmission, que fait-on ?
Il y a des artistes contemporaines là, qui sont des néo-brodeuses, mais peu importe, en fait, elles n'ont pas toute la technique d'une brodeuse qui va travailler pour les maisons de haute couture, mais en fait, elles vont utiliser le fil pour un propos, pour une représentation du monde, pour dire quelque chose. Je ne sais pas si j'écris différemment depuis que je travaille plus le fil qu'auparavant. C'est peut-être plus assuré. Tu vois, peut-être dans une acceptation du fait que je pense que quand j'écrivais avant, c'était plus dans une forme de construction. Tu vois, déjà, une mise à distance où tu sais un peu plus où tu vas, et que là, dans le travail d'écriture, c'est plus anarchique pour l'instant. et que j'accepte que ça viendra après, parce que j'accepte de réapprivoiser les mots. Le fil, c'est mon histoire. Donc peut-être que de retravailler le fil, c'est aussi retrouver la place, le lien avec les femmes de ma famille, parce qu'une famille très matriarcale, pas matriarcale, très où ça se passe par les femmes. Les hommes sont un peu... Donc c'est recréer le lien d'une histoire familiale que parfois... Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je sais faire, toi, d'où ça vient, et puis où est-ce que je vais. Le chemin, c'est très confus, mais je pense que c'est un outil qui me va bien.
Soudain, portée par des courants souterrains, naît l'idée d'une aventure nouvelle, d'une proposition qui ne serait ni exactement un livre, ni exactement un accrochage au musée.
Et permettre aux gens de circuler à l'intérieur, oui, plutôt que de l'enfermer exactement dans l'intérieur, oui, permettre aux gens de circuler à l'intérieur,
exactement,
et de donner du mouvement, oui,
et de l'espace.
Et de l'espace.
Et donc pas collé sur des murs, mais vraiment de l'espace avec un accrochage. Les formes, je n'ai aucune idée. Ouais. Mais ce serait plutôt ça.
Oui, plutôt plus dans les arbres que dans les murs.
Oui, exactement. Dans les arbres ou à l'extérieur, ou dans la rue. Ce serait fantastique.
Ouais.
Peut-être la maison de l'écriture accueillera-t-elle, parmi les arbres de sa forêt, les toiles et les mots de Laure Manéja. C'est en tout cas une belle perspective qui éclaire notre nouvelle année. Parce que la création, y compris lorsqu'elle creuse le noir, cherche la lumière. Deux textes de Marielle nous en donnent la preuve.
Revenir à soi. Les jambes sont lourdes et la tête penche encore du poids des humiliations. Les traces bleues se réveillent au moindre froissement. Les larmes ne coulent plus d'avoir trop coulé. Et le regard vidé ne sait plus où se poser. Vérité, tu n'auras pas ma haine, lâcheté. Je crache sur les flammes de tes brûlures. Déni, je sais que tu hantes pour toujours et à jamais les mots de celui que tu as fait prisonnier. Vérité, ta violence n'aura pas ma haine. Je marche lesté de tes blessures. Tu désarticules le corps, tu broies les os et les âmes. Tu nettoies et fais place nette. Vérité, tu n'auras pas ma haine. Les traces de ton passage m'invitent au dépassement. Tes ombres s'effaceront. Dans les pas d'un nouveau départ, revenir à soi et faire vibrer ce qu'il reste de moi. Déclaration. Ce soir, je ne rentrerai pas. Ce soir, les pas de mon âme malade me portent vers le chemin de l'exil de soi. Et ils disent de moi que je ne sais plus. Et ils disent de moi que je divague. Ce soir, je me souviens. Ce soir, je redeviens la petite fille de 5 ans qui court, qui hurle, qui joue dans les allées entourées de platanes. Tous ces arbres avaient un nom et je m'en souviens très bien. Ils disent de moi que je prends des risques, ils disent de moi que je suis perdue. Ce soir, je ne rentrerai pas. Ce soir, je prendrai le sentier des âmes malades. Ce soir, je suis mon exil. Ce soir, je me perds en moi. Il parle d'une maladie. Il parle. Ce soir sera mon dernier combat contre l'oubli. Ce soir, je ne sais plus qui je suis.
Quittons maintenant les corbières pour nous rapprocher de la maison de l'écriture de Bédarieux et des bords de l'Orbe, avec une création sonore de Violaine Loudéraud. Décembre. L'orbe, nommé Orbis par le géographe grec Strabon, Orobis par Ptolémée et Orobus par le poète latin Rufus Festus Avienus, est un fleuve côtier de 135 km et 600 mètres. Des dimensions modestes, mais une pépinière de vie et l'habitat de milliers d'espèces, des arbres. Populus nigra, Populus alba, peuplier noir, blanc. Salix alba, Eleagnos purpurea, acuminata, saule blanc, drapé, pourpre, cendré à poils roux. Fraxinus angustifolia, subspecies oxycarpa, frêne à feuilles aiguës. Alnus glutinosa, aulne glutineux, Cornus sanguinea, cornouiller sanguin, Robinia pseudo-acacia, originaire d'Amérique du Nord, Tilia corda, le tilleul à feuilles en cœur, Acer negundo, l'érable negundo, Ulmus, l'orme, sous diverses espèces. Quantité de plantes ont élu ses berges, des détrempés au mieux drainés. Ranunculus aquatilis, la renoncule aquatique. Ludwigia grandiflora, la jussie à grandes fleurs, originaire d'Amérique du Nord. Phalaris arundinacea, le chien-dent à grandes fleurs. Phragmites australis, le roseau commun. Typha latifolia et Typha angustifolia, deux massettes. Sparganium erectum, le rubanier d'eau. Bidens frontosa, originaire d'Amérique du Nord. Carex pendula, la grande lèche. Glycéria fluitans, la glycérie flottante. Cardamine impatiens, la cardamine impatient. Lycopoule europaeus, lycope d'Europe. Datura stramonium, le datura commun, habitué des friches. Artemisia vulgaris, l'armoise vulgaire. Eunotera biennis, l'onagre. Onopordum acanthium, l'onoporde à feuilles d'acanthe. Glossium flavum, le pavot jaune. Lataria clandestina, la laterie clandestine. Humulus lupulus, le houblon. Clématis vitalba, la clématite. Stachys sylvatica, les pierres des bois. Urtica dioica, l'ortie dioïque. Glécoma ederacea, le lierre terrestre. Osmunda regalis, la falguera deiga, l'osmonde royal. Litrum salicaria, la mecca des piotes, la salicaire. Polygonum species, cuscuta species, ementa pulgium, piperita, pulmonaria longifolia, symphytum tuberosum, allium ursinum, cardamine pratensis, epilobium hirsutum, eupatorium cannabinum, ranunculus ficaria, primula veris, filipendula ulmaria, l'herba d'abeille, impatiens glandulifera, originaire de l'Himalaya. Helianthus decapellatus et Aster simplex, originaire d'Amérique du Nord. Xanthium italicum vient, elle, d'Italie. Senecio inequidens nous vient du Cap. Leucojum aestivum, Juncus effusus, Valeriana officinalis, chère aux insomniaques. Des peuples vigoureux de rats musqués et de rats taupiers construisent dans les berges de l'Orbe des réseaux de galeries auprès desquels les métros de Séoul et de New York font figure de gaminerie. Avec les campagnols, les mulots, les souris et les musaraignes, ils enquiquinent les jardiniers et les obsessionnels de la pelouse moquette, mais nourrissent les rapaces, Milvus migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus et Buteo buteo, sans compter les couleuvres, les renards et les abominables matous à nénéaux. Belette, fouine, Marthe des pins, blaireau, putois, genette d'Europe, chat forestier, trouvent sans peine leur nourriture dans ce paradis et s'abreuvent à l'eau généreuse, tout comme la nuit, les sangliers, les chevreuils et les cerfs, descendus en banc des collines. 27 espèces de chauves-souris débarrasse efficacement des moustiques les humains à peaux pâles et tendres. Carpes, cendres, perches, truites, fariots ou arc-en-ciel, vérons, goujons, brochets, chevennes, tanches, ablettes, barbeaux. Et tout en bas, à l'embouchure, barres, mulets, plis, sols, anguilles, turbots, macros, dorades et sèches régalent encore les tribus de bipèdes. Mais sous ces airs fragiles, l'ennemi est puissant et déjà détruite la délicate loutre, Loutra loutra, et le vison d'Europe, Mustela loutreola, empoisonné au PCB ou traqué pour sa fourrure. Même si des écrevisses à pieds blancs sont encore signalées dans les eaux les moins contaminées du bassin, l'ombre commun, Timalus timalus, ainsi nommé à cause de l'odeur de thym dégagée par sa chair, est en voie de disparition. La faute n'en incombe pas à Alcedo Atis, le martin pêcheur, mais aux déchets chimiques déversés sur la terre et infiltrés dans les eaux. Là-haut, dans les branches, chante encore le rouge-gorge, Eritacus rubecula, et craquettent les rouges queues noires ou à front blanc, Phoenicurus ocurus et Phoenicurus phoenicurus, avec Regulus regulus et son cousin Inicapilla, avec Troglodytes troglodytes et les deux Streptopelia, Decaocto et Tourtour, avec Philoscopus bonelli et sa bande, Philoscopus trochilus, Sibilatrix colibita, avec Oriolus oriolus, Motacilla cinerea et sa nièce Motacilla alba, avec Ardea cinerea et son neveu Purpurea, Corvus coronae est à la contrebasse, Cuculus canorus et Corvus monedula à la grosse caisse, Strix aluco à la caisse claire, Clamator glandarius, le ténor, pleure son amour pour Luchinia megarincos, la soprane. Carduelis cloris, duelis pinus, ourdis de sombres machinations, sous le regard philosophe d'Athénée noctua. Les Acrocéphalus, Arundinaceus et Sirpaceus chantent l'amour en compagnie des Columba, Livia, Eunas et Palumbus. Le cœur des Sylvia, Atricapilla et Communis, Melanocephala, Hortensis et Cantillans soutient l'orchestre avec Pica Pica, accompagné à la batterie par les Dendrocopos, major et minor, et Picus Viridis au congas, avec Apus Apus et sa smala, Apus Pallidus, Melba, avec Tourdus Merula, Aegitalos Codatus, Cyanistes Ceruleus, Parus Major, Lofofanes Christatus, Periparus Ater, Pesile Palustris au Maracas. Passeur Domenicus et Montanus avec toute la bande des Emberiza, Cheniculus, Silla, Ortulana, Cirlus, Calandra font la claque. La chorégraphie est assurée par Delicon Urbicum, Riparia Riparia, Ptinopronier Rupestris, Cerocropis Dorica et Irundo Rustica. Opopa et Pops, et Carduelis Carduelis règlent le design et les costumes de scène. Sinclus Sinclus, Sisticola Iuncidis, Kairina Moschata, Platyrinko, Anatidae, Anas Platyrinkos, Circus Pigargus, Aeruginosus Sianeus, s'en foutent. Ils n'aiment que l'eau courante. Et nager, nager, nager. Là-haut, dans l'azur, Croicocephalus ridibundus et Larus micahellis rient de l'insouciance générale pour ne pas pleurer. Eux connaissent le tragique destin des eaux de l'Orbe, peu à peu contaminées par l'arsenic, les micropolluants métalliques, zinc, plomb, mercure, et des pesticides répandus à gogo sur les vignes, certains interdits depuis des années, Duron, dichlore propre. Dans les eaux claires, en surface, on trouve la MPA, le métabolite du glyphosate. Et dans les eaux souterraines, 33 pesticides dépassant la norme. Des triazines, atrazines, simazines, terbutilazines et leurs métabolites. La qualité bactériologique de ces eaux qui ne peuvent retrouver l'équilibre est forcément mauvaise. Plus d'un quart des captages destinés à l'eau potable est chroniquement contaminé. Et après avoir détruit le vivant autour de lui, l'homme, lentement, s'empoisonne. C'était les buissonnières qui vous invitent pour notre bien commun à bannir de vos placards, frigos et jardins les produits chimiques et préparations industrielles opaques. Votons nature et création artistique et rendez-vous le 14 février prochain à 10h sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.